ça m'oppresse beaucoup la masculinité en ce moment.
Oui, je peux comprendre qu'en ce moment, les hommes qui se sentent un peu pris entre le marteau et l'enclume de la, du virilisme et comment dire, la, le mâle performatif.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces expressions qui flottent dans l'air du temps, mais qu'on a parfois du mal à saisir, tel un papillon malicieux ou un d'où ça sort écrit à la va-vite. Aujourd'hui, comme un hommage au retour de notre rédacteur en chef justement, on va zoomer sur un thème que jusqu'à preuve du contraire, il tient pour une légende urbaine, la crise de la masculinité. Alors, la crise de la cinquantaine, oui, il voit. Comment expliquer sinon cette envie soudaine de se faire percer l'oreille pour y accueillir une boucle d'oreilles, guitare électrique, siglée Bono Rocks. En revanche, la crise de la masculinité, quand il file sur son puissant deux roues, empruntant les voies de bus au nez à la barre de la maréchaussée, qui même lorsqu'elle le prend en flag, renonce à le verbaliser tellement il en impose avec sa grosse cylindrée et sa grosse beubare façon Hells Angels, lui qui, contrairement aux autres usagers de la route, n'a pas une seconde à perdre car il a rendez-vous avec Louis Sarkozy pour l'épisode 1 de son podcast Entre côtes, entre couilles. Vraiment, non, la crise de la masculinité, y voit pas. Nous avait-il lancé en conférence de rédaction, non sans postillonner des restes de pâté en croûte au mori dans un rayon de 6 km. Et pourtant, elle existe, cette crise de la masculinité, du moins, beaucoup d'hommes s'en font l'écho, des hommes qui souvent se sentent débordés par l'émancipation féminine et la remise en cause de la traditionnelle répartition des rôles hommes-femmes, traditionnelle c'est-à-dire patriarcale, mal à l'aise aussi par rapport au nouveau modèle masculin, plus fragile, plus androgyne, qu'à l'époque de John Wayne, on pense évidemment à Timothée Chalamet, on pense à Harry Styles. Alors, pendant que Cyril se bouche les oreilles avec du persil et surtout pas de la coriandre, je vous propose qu'on regarde le sujet droit dans les yeux. Zoom Zoom Zen spécial crise de la masculinité. C'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Aurélia Blanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Aurélia, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de genre et des enjeux féministes. Vous avez écrit dans Cosette et vous avez publié 2 livres. Tu seras un homme féministe, mon fils, c'était en 2018. Et Tu seras une mère féministe en 2022 aux éditions Marabout. Et si on vous invite aujourd'hui, c'est pour votre bande dessinée Éduquons nos fils, coécrit avec Maëline et illustrée par Anjuna Boutan. C'est paru aux éditions Marabulle, une BD dans laquelle vous parlez de l'importance de transmettre des valeurs égalitaires à nos enfants, en particulier donc aux garçons. Vous allez nous expliquer comment. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, 2 membres de la Jenny Grecque, donc un peu plus à même que Cyril de comprendre ces problématiques de genre qui, je cite Cyril, lui file la migraine. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
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 Bonjour à tous. La Jenny Grecque,
ça. Oui, vous êtes la Jenny Grecque.
Oui, c'est
vous voulez dire qu'il faut être, soi-même.
On disait génération Y.
Pour dire la Jenny Grecque, très bien. Aurélia Blanc, on va parler donc de cette crise de la masculinité. On va parler aussi évidemment de déconstruction. Déjà, comment vous comprenez ce terme de crise de la masculinité?
En fait, il est très flou. C'est un mot valise. Ce dont on peut être certain, c'est que quand on parle de crise de la masculinité, c'est rarement défini, mais c'est toujours un peu la faute des femmes, qui ont pris trop de place, qui ont eu trop de revendications, trop d'avancées, donc on ne sait pas très bien en fait ce que ça recouvre, mais on sait que c'est la faute des femmes.
C'est une accusation portée contre les femmes.
Contre les femmes, mais particulièrement contre les femmes qui auraient des velléités féministes.
Comme j'ai honte du portrait que j'ai fait de lui à l'instant, lui qui est l'homme déconstruit dans toute sa splendeur, car Cyril Lacaire n'est plus ce viandard barbu qui jadis sillonnait les rues de Paris sur une moto anglaise de grosse cylindrée. Désormais, le dimanche, il ne va plus casser du gauchiste avec ses copains des Hells Angels de Ponto Combo. Maintenant, le dimanche, il fait des crêpes. Et le lundi, il les apporte à ses collègues dans un mignon petit Tupperware. Comble du raffinement, il a même fait son caramel au beurre salé maison. Tu vas voir, il est un peu raté, mais il est bon quand même, nous disait-il. J'avais envie de le croquer tellement il était mime. De vous, vous êtes mignon.
Me croquer, moi.
Oui, oh, bah, c'est symbolique.
Qu'est-ce que vous racontez, Mathieu
Noël. Cyril.
Ne dévoilez pas toute notre intimité.
Bon, cas, les crêpes étaient très bonnes.
Oui, tout était très bon.
Merci, cousine.
Vous qui êtes visiblement en plein dedans, racontez-nous la crise de la masculinité, d'où ça sort.
Eh bien, imaginez, vous entendez dire que les hommes sont trop virils, et puis finalement pas assez, qu'ils sont trop durs, puis trop doux. On parle d'hommes perdus, de masculinité toxique, de mal déconstruit. Il y a Brad Pitt en jupe, Stromae qui chante ses angoisses, et des TikTokers qui pleurent face caméra, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier et il semble que ça en rende certains nerveux. Depuis un siècle, en fait, la masculinité serait en crise, c'est en tout cas ce qu'on nous répète à chaque génération. Déjà au 19e siècle, après la révolution industrielle, on déplore l'affaiblissement des hommes modernes au prétexte que les hommes seraient désormais enfermés dans des bureaux, donc loin de la réalité du quotidien. Dans les années 70, en réaction à la montée en puissance du mouvement féministe, on voit apparaître le Men's Movement, un mouvement masculin tiraillé entre deux extrêmes. D'un côté, les hommes féministes qui veulent redéfinir leur rapport aux émotions, leur rôle en tant que père, et afficher leur vulnérabilité. Et puis les anti-féministes qui dénoncent la castration de l'homme moderne.
Mais c'est encore 20 ans plus tard que la notion de crise de masculinité est popularisée.
Oui, dans les années 90, grâce au sociologue américain Michael Kimmel, qui parle de masculinity crisis. À travers cette notion, il veut parler du malaise des hommes face à l'émancipation féminine et à la remise en cause des rôles traditionnels. Une crise qui devient virale dans les années 2010. Sur YouTube, des influenceurs prônent le masculinisme, le red pill ou la séduction virile, pendant que d'autres, comme Harry Styles ou Timothée Chalamet, incarnent une nouvelle masculinité fluide et qui brouille les codes. Alors d'où ça sort la crise de la masculinité ? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Aurélia Blanc, quand on parle
Timothée Chalamet.
Oui, c'est...
Ah, Timothée.
Chalamet.
Oui. Voilà.
J'ai dit
Chalamet.
Chalamet.
N'allez pas nous mettre bougon.
On l'embrasse.
Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai très bien compris, Cyril, ce que vous disiez.
Oh. Merci, Mathieu.
Aurélia Blanc, quand on parle de masculinité, on devrait peut-être aujourd'hui parler tout simplement des masculinités. C'est ce pluriel, peut-être, qui gêne certains hommes qui ne savent plus trop se situer, mais finalement, ils n'ont qu'à choisir. C'est juste qu'il y a différents modèles d'hommes qu'on nous propose aujourd'hui, tout simplement.
Oui, absolument. Il n'y a pas une seule et même matrice, en fait. Les hommes sont divers. J'en viens à dire des choses assez basiques.
Mais c'était peut-être pas le cas avant, en fait. À une époque, un homme devait être viril, costaud, etc. Peut-être
oui, mais il y a toujours eu des hommes qui venaient remettre en question les normes de genre de leur époque. Et d'ailleurs, cette crise de la masculinité, ce terme, il remonte même à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'Aristote, à son époque, se plaignait déjà qu'il y avait une crise de la masculinité, une féminisation de la société, dans une société où les femmes n'avaient pas de droits civiques.
Mais est-ce que ce qui change aujourd'hui, c'est comme l'a dit Cyril, que maintenant c'est mis en avant aussi par des stars, entre guillemets, donc on parlait d'Harry Styles, mais il y a aussi Pedro Pascal, on pourrait en citer d'autres. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a ces nouvelles représentations masculines, on en parle autant aujourd'hui?
Oui, bah en fait, cette visibilité-là, ces hommes comme Harry Styles, par exemple, ou Timothée Chalamet, ils représentent des nouveaux rôle modèles, ils osent incarner un modèle différent, et en fait, c'est ça qui dérange les franges les plus conservatrices ou réactionnaires, parce qu'il y a une haine, en fait, que des hommes puissent être différents d'eux, et surtout une peur que ça se développe et que ça vienne contaminer, entre guillemets, l'ensemble de la société qui se retrouverait totalement féminisée. C'est ça, en fait, la crainte.
On a fait une émission, il y a quelques temps, sur les soy boys, les garçons soja, des hommes jugés trop frêles par les masculinistes. Est-ce que l'apparence physique de ces hommes qui refusent les stéréotypes virilistes est un acte politique en soi ?
Oui et non. À la base, c'est avant tout un acte intime, ça peut être un choix esthétique, personnel, mais de fait, assumer ce choix dans l'espace public, ça prend de facto une dimension politique. Donc, on ne le fait pas forcément pour des raisons politiques, mais ça le devient par rapport au débat qui traverse la société aujourd'hui.
On va revenir sur l'antagonisme homme-femme, mais est-ce que au sein des hommes, il n'y a pas déjà une crispation du débat ou une haine entre les hommes, les masculins justement, qu'on voit émerger sur les réseaux, et ceux qui s'en foutent de tout ça, de cette image viriliste et qui veulent être déconstruits, enfin, tout simplement s'habiller ou se représenter différemment.
Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit dans tout un tas d'études assez récentes, il y a quand même une vraie polarisation parmi les hommes eux-mêmes, entre des franges d'hommes plus progressistes, qui ne sont pas nécessairement très déconstruits ou très performatifs sur les questions de genre, mais qui n'ont pas de problème à ce que d'autres le soient, et de l'autre côté du spectre, des hommes qui vont vraiment être dans des dynamiques parfois assez puissantes de harcèlement, de condamnation, parce qu'ils sont gênés que d'autres ne suivent pas leur pas.
Que l'école a un rôle à jouer et qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Oui, l'école, elle a un rôle à jouer. Alors, on lui demande beaucoup de choses à l'école, donc vrai que voilà. Mais oui, bien sûr qu'elle a un rôle à jouer. Mais pour ça, il faudrait déjà que tous les enseignants soient formés, peut-être,
aux questions
de genre. Non, en fait, les modules sur l'égalité filles-garçons, c'est apparu en 2022 seulement. Donc, on
voit pas encore les effets.
On a un peu de rattrapage à faire. Et pareil, les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, qui sont un très bon espace pour justement déconstruire les injonctions sexistes. Ça fait 24 ans maintenant que les élèves sont censés en avoir 3 par an. On sait que ce n'est pas le cas. Et quand il s'agit de les rendre vraiment effectives, on a des levées de boucliers dans la société avec des groupuscules de parents en colère. Donc, ce n'est pas évident.
Quentin ?
Il y a une scénette dans votre BD qui parle justement de l'éducation sexuelle. Le personnage explique que les garçons les plus à l'aise avec la sexualité et les plus à l'écoute de leurs partenaires sont ceux dont les parents, y compris les pères, leur ont parlé de sexe. C'est ce que vous avez constaté. Il faut parler de sexe avec son
enfant. Oui, alors on est rarement très à l'aise pour parler de sexe avec ses enfants, mais leur parler quand même de sexualité, de corps, de consentement. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Donc oui, ça me semble essentiel, parce que de toute façon, si nous on le fait pas, que l'école ne le fait pas, le porno, les potes se chargent de le faire. Donc en fait, c'est bien de leur donner aussi quelques outils un peu concrets pour les armer, parce que pour en revenir sur cette crise de la masculinité, c'est aussi une source de pression et d'inquiétude énorme pour les jeunes garçons, l'entrée en fait dans la sexualité, dans cet univers très stéréotypé.
Vous parlez de nouveaux outils. Le gouvernement britannique a décidé de diffuser la série Adolescence en classe. En France, elle sera proposée comme support pédagogique. Qu'est-ce que vous vous dites ? C'est bien ? C'est trop tard ? C'est un peu gadget ? Ou vraiment, c'est vraiment une bonne idée.
Je pense que c'est intéressant s'il y a vraiment des gens formés pour animer la parole autour, parce que s'il s'agit juste de diffuser une série que les ados ont peut-être déjà vue chez eux en guise de solution, c'est un peu court. Il faudrait vraiment que ça s'inscrive dans un travail au long terme, avec des gens formés, enfin vraiment, et en même temps j'ai conscience qu'on peut pas nécessairement demander aux enseignants de prendre ça en charge.
Des gens
fait.
Formés, ce serait qui ?
Il y a des associations. Par exemple, en Ile-de-France, il y a le CRIPS, on pourrait penser au planning familial, en avant-toute, qui intervient dans les écoles. Enfin, il y a des acteurs dont c'est le métier, en fait, qui ont cette expertise et qui vont de collège en lycée à longueur d'année. Donc, ils ont l'habitude, en fait, de faire ça. Mais c'est vrai que ça demande un peu de temps dans les emplois du temps et aussi un peu d'argent. Voilà, et c'est sans doute pour ça que diffuser un film, ça se fait à moindre coût. Et si c'est ça la seule solution, je pense que c'est un premier pas qui n'est pas suffisant du tout.
J'ai l'impression que, pour ce qui est de la nouvelle génération, là je ne parle pas de nous, mais des jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une polarisation extrême entre ceux qui, alors ils sont dans l'air d'après-midi-tout, entre les jeunes qui vont être très ouverts, naturellement déconstruits, presque si tant est qu'on puisse dire ça, et un espèce de backlash avec ceux qui vont s'orienter vers les incels, les mascus, et on a l'impression que c'est deux jeunesses qui vont plus parler en fait.
Ouais, c'est vrai que cette polarisation-là, on la retrouve dans toutes les études récentes, avec d'un côté des jeunes très déconstruits, en tout cas très à l'aise avec la question de la fluidité de genre, l'orientation sexuelle, l'égalité des genres, et de l'autre côté, peut-être un quart, 30% des jeunes hommes qui, eux, sont vraiment sur des visions masculinistes. Alors, d'une part, on pourrait quand même rappeler que cette polarisation, elle n'est pas que chez les jeunes. En fait, ça reflète ce qui se passe quand même dans l'ensemble de la société. C'est aussi valable chez les adultes. Mais ça nous montre aussi qu'il y a quand même sans doute besoin, urgemment, d'espace de parole pour les jeunes et les jeunes garçons sur ces questions.
Et sur le rôle des parents, là, pour le coup, est-ce qu'on ne peut pas faire un distinguo entre ceux qui virent mascu et ceux qui sont plus déconstruits ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance qu'on donne à son enfant ? Moi, j'ai l'impression, c'est pas sociologique, c'est juste une analyse personnelle, que il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Quand on devient masculin, c'est qu'on a peur d'être remplacé, je ne sais pas. Donc, si Absolument. Les parents vous donnent plus confiance en vous quand vous êtes petit et jeune, ça peut donner ensuite des gens plus ouverts à la déconstruction.
On peut penser qu'on est un peu mieux prémunis contre l'influence des discours masculinistes quand, effectivement, on grandit dans une famille qui nous donne sa confiance, nous encourage à être soi-même, en fait. C'est sûr que quand on grandit dans un milieu où il est interdit depuis tout petit de se comporter comme une fille ou comme une femmelette, ça crée beaucoup d'insécurité et donc un espèce de réflexe défensif derrière sur ces questions identitaires.
Quentin ?
Vous dites, et ça j'aime bien, vous dites qu'il y a toujours un bénéfice social à se présenter comme un homme déconstruit.
Oui.
Je pense qu'un mec qui arrive en soirée et qui dit bonjour, je suis un homme déconstruit, il faut s'en méfier.
Alors ça dépend dans quelle soirée on va.
Ouais. Si c'est le premier truc qu'il dit en arrivant, si tu veux.
Mais, avec un livre de Mona Chollet.
Voilà, mais oui, globalement, ça peut aussi être, entre guillemets, un argument de vente pour certains hommes, pour draguer, pour avoir bénéficié d'une meilleure image d'eux-mêmes et passer pour le mec cool et si déconstruit.
Merci Aurélie Blanc d'être venue décortiquer cette crise de la masculinité qui fait tant peur à nos amis de l'heure des pros. Dans quelques instants, on parlera de mort sociale avec le directeur général de l'association Petits Frères des Pauvres. Un bon vieux complètement à la rue, bien sûr. Marie Debreuer poussera un coup de gueule contre les médicaments comme l'Ozempic. Tout ça après The Spencer Davis Group, Keep On Running sur France Inter.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Être de plus en plus déconnecté de ses contemporains, ne plus voir ses amis, ne plus jamais sortir. Mathieu, pourquoi tu nous parles de toi? Êtes-vous en train de me dire? Je ne vous parle pas de moi, bougre d'andouille, arrêtez de rire, mais de ces personnes âgées qui vivent le terrifiant phénomène de la mort sociale. On en parle avec le délégué général des Petits Frères des Pauvres, Yann Lanier, qui est avec nous. Yann, dans votre dernière étude, vous faites le distinguo entre isolement et solitude. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, l'isolement, c'est quelque chose qu'on va complètement subir. La solitude, on peut en ressentir le sentiment. Ça nous arrive à tous, des millions de personnes ressentent le sentiment de solitude à tous les âges de la vie, et puis on peut la rechercher parfois, notamment quand on a des vies sociales denses. On peut être amené à par moments être très très heureux de pouvoir vivre un peu et de se poser et d'être un petit peu seul. Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont, par certains récits, magnifier la solitude. Il ne faut pas la confondre avec l'isolement social. L'isolement social, c'est vraiment quelque chose qui va malheureusement s'imposer et qui est une problématique sanitaire. Aujourd'hui, l'OMS parle même d'épidémie de solitude. Mais cette solitude, elle peut aussi conduire à ce phénomène ultime qui est l'isolement social.
Il y avait eu un événement qui nous avait aussi alerté sur la solitude et l'isolement des personnes âgées, c'est la canicule de 2003. Est-ce qu'on en avait tiré des leçons, ou est-ce que ça a changé, ou est-ce que rien n'a vraiment changé?
Alors on peut rappeler les éléments de la canicule de 2003, puisque ça date un peu maintenant, 22 ans. On a connu depuis de nombreux épisodes caniculaires. Aucun, heureusement, n'a fait 15 000 morts.
Voilà, c'est pas les mêmes
conséquences.
Ouais.
Puisque l'épisode de 2003, c'était 15 000 morts. Patrick Peloux qui alertait sur l'encombrement des urgences, et puis c'était même des entrepôts de Rungis qui étaient réquisitionnés pour stocker des cercueils. 400 cercueils n'ont jamais été réclamés après la canicule de 2003. Je crois que certains, aujourd'hui, sociologues, etc., s'intéressent à cette sorte de cold case là-dessus. Ça a créé un registre canicule. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez, notamment auprès de votre commune, vous inscrire. C'est une démarche volontaire sur ce registre canicule. Mais nous avons encore un gros travail à faire dans la société pour repérer les personnes en situation d'isolement social. Ça se traduit par de l'invisibilité sociale, et repérer les invisibles, c'est quelque chose qui est complexe à faire sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan éthique.
Yann Lanier, est-ce que la mort sociale, elle frappe plus souvent en ville ou en milieu rural?
Alors, aujourd'hui, on a tendance à avoir quelques biais là-dessus, en pensant que dans certains territoires où la densité de population est faible, on va avoir plus de personnes isolées socialement qu'en ville. Nous avons fait une étude au printemps dernier dans les quartiers politiques de la ville, une étude qui s'appelle Vieux de banlieue. On a aujourd'hui énormément de situations de personnes qui vivent la solitude et l'isolement social dans les quartiers populaires. On a mis à jour des chiffres qui m'ont beaucoup marqué dans le baromètre. 380 000 personnes dans notre pays n'ont pas de voisins. Leur habitat fait qu'ils n'ont pas de voisins. Effectivement, vous avez des départements de France où le phénomène de mur démographique que nous sommes en train de vivre, ce changement démographique profond, fait que vous avez une population qui va se composer de manière majoritaire de personnes de plus de 60 ans. Mais encore une fois, il ne faut pas croire que l'isolement social serait quelque chose de réservé à la campagne et que la ville en serait protégée. C'est absolument pas le cas.
Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on délaisse nos aînés? Est-ce que ça a toujours été le cas?
Je ne crois pas que ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, la problématique que la société a encore du mal à intégrer, c'est justement cette démographie qui est en train de changer structurellement. Songez que dans 5 ans, il y aura 50% de 14-84 ans en plus qu'aujourd'hui. Oui. Nous avons une progression du nombre de personnes de plus de 60 ans dans notre pays qui va nous faire atteindre très rapidement un tiers de la société française. L'âge invisibilise. Et donc, plus nous avons de personnes âgées, plus potentiellement nous avons de personnes qui vont être invisibilisées dans la société si nous ne recréons pas une sorte de continuum harmonieux entre les générations.
Moi, j'ai l'impression que... Malgré le chiffre, vous pensez qu'on va avoir de plus en plus d'invisibles s'ils
oui,
sont très nombreux.
Oui, ben, on le voit bien avec notre chiffre des 750 000, puisque ce qui provoque vous avez un lien, si vous voulez, entre cette question de l'isolement social et l'âge. Vous avez un lien entre l'isolement social et la précarité. Moins vous avez de revenus, plus vous avez de risques d'être isolé socialement. On documente 4% des plus de 60 ans en situation d'isolement social. On arrive à 9% des personnes dont les ressources sont inférieures à 1 000 euros par mois. Vous avez des phénomènes de conjonction. Et puis, on a aussi des nouveaux phénomènes. Moi, je vous inviterai d'ailleurs à vous y intéresser. Quand on parle des personnes âgées, je ne sais jamais de quel âge on parle. Aujourd'hui, on parle des plus de 60 ans, mais vous avez un champion olympique qui est mort à 101 ans. Donc vous voyez, ça fait quand même encore un petit bout de vie, hein, 40 ans. Voilà. Et donc, quand on parle d'âge, vous voyez, il y a des choses totalement nouvelles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nonagénaires, il y a de plus en plus de centenaires.
Personnes de 60 ans d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 20 ans. Aussi.
Bien sûr, en termes d'aspiration, d'espérance de vie. Les personnes de 60 ans d'aujourd'hui sont nées dans les années 60. Oui.
Lui, il ne sera jamais confronté au fléau de la mort sociale, car même lorsqu'il sera vieux, à l'EHPAD Thibault InShape d'Alençon, il saura toujours tisser des liens avec les autres pensionnaires, notamment en leur offrant des mini-concerts.
Vanina, si tu m'oublies...
Dave sera plus là pour faire le duel avec moi.
Mais Dave vous enterrera, Quentin. Vous êtes le mal incarné. On l'embrasse, évidemment. Quentin, en attendant d'assouvir enfin vos rêves de scène, dites-nous comment les passants que vous avez croisés ont réagi à ce terme de mort sociale.
Je marche rue du Faubourg Saint-Denis, que vous connaissez bien. J'entends des Parisiens qui sortent du métro et qui disent qu'ils descendent à SSD. Ça me fait rire. Une fin d'après-midi où les restaurateurs attendent le coup de feu. On est dans une sorte de ventre mou agité dans cette rue qui fourmille à toute heure. Ici, je rencontre Clémentine. Elle est prof d'anglais. Que lui évoque la mort sociale?
C'est marrant parce que j'ai préparé mes cours ce matin et j'ai un peu abordé ce sujet, je vais aborder ce sujet avec mes élèves. Pour moi, la mort sociale, c'est plus peut-être quand on est confronté à la différence, mais que du coup, ça nous tue socialement. Parce que quand on est confronté à la différence ou qu'on est trop différent de ceux, qu'on ne répond pas forcément aux attentes de nos proches, ça peut entraîner une certaine mort sociale.
Vous avez raison.
Mais oui.
Une déconnexion avec la famille.
Exactement.
Et ça va même plus loin, un choix de vie en marge. Et nous passons à côté tous les jours sans voir le problème.
C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à fermer les yeux volontairement, on n'a pas envie de voir ce qui nous dérange, parce que ça nous renvoie à nos propres angoisses, parce que dans le fond, on est tous pareils. Hein.
Ça veut dire qu'on a peur d'être comme ça, c'est
ça ? Bien sûr. Bien sûr. Même quand on essaye de s'en détacher, il y a toujours une part de nous, c'est inconscient. Mais oui.
Vous, il y a une part de vous qui a peur de la mort sociale.
Ah oui. Ah oui.
Je traverse la rue et j'arrive sous un barnum qui a été aménagé à côté d'une tente verte fluo. C'est là que je rencontre ce monsieur. Où est-ce qu'on est ?
On est à la porte de Paris, donc dans le 10e, à Strasbourg-Saint-Denis pour être plus précisément. On est ici en soutien pour Zera Kurtay. Donc qui est Zera Kurtay ? Zera Kurtay est une journaliste originaire de Turquie qui se trouve en France depuis 18 ans, qui avait demandé l'asile politique. Et là, on lui a retiré du jour au lendemain son asile politique. Donc elle se retrouve sans papier, sans droit.
Bon, là, il y a un engagement pour cette journaliste, mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de m'arrêter, car j'ai l'impression que justement, quand on s'engage, on se rassemble. Ce qui me rappelle aussi un peu les Gilets jaunes. Cette porte de Paris ressemble finalement un peu à un rond-point, un endroit où l'on peut venir causer, et sous ce barnum aménagé avec une étagère en bois, des plantes, de quoi faire un café, un peu de miel aussi, je sens que ça ouvre une porte à certains.
Parfaitement. Ça change le regard des gens et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement les gens qu'on croise ici, qu'on appelle SDF ou fou ou ce qu'on veut, finalement ils ont besoin, on a vu ici, parce qu'on les aide, on essaye de leur apporter des vêtements propres, les envoyer à la douche, on leur sert le café le matin, parfois quand on a de la place, on les fait dormir sous la tente aussi, et ils sont super agréables, c'est des humains. Et ça nous blesse de voir qu'il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour devant et ils passent inaperçus, ces gens-là. Alors qu'ils ont juste besoin un peu de soutien, de morale, ils ont besoin de savoir qu'ils existent aussi. Je pense qu'on les a rendus invisibles. On trouve ça normal maintenant.
Ma dernière rencontre, à son œil gauche, dans l'objectif d'un appareil photo.
Et là, je suis en train de photographier la lumière sur la façade de ce bâtiment, en face.
C'est beau, là, hein, à cette heure-là.
Particulièrement. La mort sociale. Ben, ça me parle particulièrement. Je viens de faire une série de 3 ans de portraits de personnes âgées en EHPAD. Donc, ça me parle particulièrement.
Il me dit qu'il n'avait jamais pris conscience de la mort sociale des personnes âgées. Je lui demande ce qui l'a touché, ce qui l'a marqué dans ce projet.
ce qui m'a touché particulièrement, ce que j'ai constaté rapidement et ce qui m'a invité à essayer, à ma petite échelle, de changer la donne quand je vais photographier ces personnes, c'est qu'on ne s'adresse plus à elles par leur prénom. C'est monsieur un tel, c'est un patient, c'est un grand-parent, et en fait, il y a une espèce de mort de l'identité. Et quand j'allais voir ces personnes pour faire leurs photos, pour faire leurs portraits, c'était principalement pour les familles au départ. Et ce qui me choquait le plus, c'est qu'on me disait à quoi ça sert, j'ai des photos, les dernières photos, c'était... En fait, on arrête de prendre les gens en photo à partir de 50 ans, j'ai l'impression. Après, c'est une personne âgée, et donc du coup, elle ne fait plus partie du mouvement de la vie. On prend 10 000 photos par jour, et on préfère photographier nos repas plutôt que nos grands-parents.
C'est intéressant ce qu'il dit. Les familles ne voyaient pas en quoi il y avait besoin de refaire un portrait, une perte d'identité supplémentaire. Et nous, tous les jours, on passe à côté de gens qui n'ont pas une interaction avec un autre être humain depuis plusieurs jours, peut-être.
C'est d'une violence inouïe. Et c'est surtout le contraste avec, avec cette ère du digital, en fait, où tout le monde prétend être ultra connecté. L'isolement est d'autant plus violent et profond, je pense. Là, je sors du métro et honnêtement, je suis content d'avoir ce regard de photographe qui me permet d'avoir systématiquement une espèce de distance par rapport aux situations que je vis. Mais en fait, il n'y a même plus de contact, il y a plus de contact du tout entre les gens. On est tous lobotomisés par nos smartphones.
On parle beaucoup d'isolement, mais c'est peut-être d'indifférence qu'on meurt le plus. Quand le monde ne vous regarde plus, vous cessez doucement d'en faire partie. Et c'est dans ce retrait-là que la mort sociale se loge, discrète, quotidienne et parfois même fatale.
Marie Debreur, aujourd'hui, vous nous parlez d'une tribune qui remet en cause les nouveaux médicaments anti-obésité.
J'arrive dans cette chronique telle une lanceuse d'alerte, une journaliste d'investigation. Imaginez-moi avec une grosse loupe. Voilà, je suis Fabrice Arfi. Je dirais même, je suis Fabrice Grarfi. Oh oui, c'est grossophobe. J'avais aussi Denis Gros-Robert. Mais bon, j'arrête. Je vais vous parler d'une tribune diffusée sur Mediapart qui lutte contre la grossophobie que j'ai signée. Oui, je signe des tribunes. Je suis une star, on peut le dire, la star des gros, oui. Même si je dois répéter quand même plusieurs fois par semaine que non, c'est pas moi qui ai mixé aux Jeux Olympiques. Et non, c'est pas moi qui ai joué dans Maison de Retraite 1, c'est Gérard Depardieu. Enfin, on se ressemble même pas, enfin, il est blond, mais bon, je suis quand même un peu célèbre, quoi. Je pèse, sans mauvais jeu de mots. Bon, il y a 220 signataires à la tribune qui alerte sur les nouveaux médicaments anti-obésité. Je vous l'accorde, c'est pas énorme, 220. Mais comme j'ai 3 chiffres sur la balance, j'ai décidé que je comptais double. Voilà, donc ça fait 221. Ouh, c'est la lutte finale. La révolution, piou, piou, piou. Elle est fatiguée, cette révolution. La tribune lance l'alerte sur les médicaments dits anti-obésité, donc Wegovy, Mounjaro, etc. et tous leurs effets secondaires. Le truc est vendu vraiment comme une solution miracle. Ouais. Bon, on m'avait dit pareil du régime 100% bâtonnet de crabe. Et j'ai pué l'algue de mer pendant 6 mois. Une côte bretonne, la meuf. Et j'ai pas perdu un gramme, donc miracle. Merde à la fin. Autre info alarmante, les nouveaux médicaments contre l'obésité augmentent de 195% le risque de dépression majeure. Skinny but depressed. Le médecin, il sera là si je commence à me foutre des picousses dans le bras. Il sera là, oui, madame de Breuer. Bon, vous avez envie de vous défenestrer. Bon, mais vous pouvez le faire depuis une petite lucarne maintenant. Bon, c'est génial. Ah, et si vous avez envie de vous pendre, pareil, vous pourrez. La poutre ne cédera plus sous votre poids. Enfin, vous avez demandé l'accessibilité, vous l'avez. Bon, et puis regardez-vous, vous êtes tellement mince. Vous pouvez jouer à cache-cache en vous mettant de profil. C'est génial. Mais docteur, mais pourquoi j'aurais envie de jouer à cache-cache? Oh là là, vous avez perdu de votre joie de vivre. Hein. Voyez le verre à moitié plein. Et un verre d'eau, Marie, pas de grenadine. Ah, non, merci. Si certains préféraient crever qu'avoir mon corps, moi, je préférais avoir mon corps qu'avoir envie de crever. Tire sur mon doigt, Manon. C'est pour mettre un peu de légèreté dans la chronique. Enfin, légèreté, vu l'odeur. Il est solide, le bordel. Je suis désolée. Pardon. Le coût de production des injections pour les laboratoires, c'est entre 89 centimes et 5 dollars pour une mise en vente à environ 80 balles. Mais c'est pour la santé qu'ils font ça. Ok, ils veulent juste prendre soin de nous depuis leur yacht où ils mangent du homard. Le homard, la chance. Je sais pas pourquoi je suis obsédée par les fruits de mer aujourd'hui. Je dois être enceinte. Who knows? Not me. Bon, je pourrais faire la liste des effets secondaires et vous dire qu'il y a eu 560 cas de pancréatite aiguë et une dizaine de morts potentiellement liées à la prise du médoc au Royaume-Uni. Mais apparemment, la mort n'est pas assez dissuasive. Mais j'ai une pote, voilà, qui, après ses injections de GPL1, elle a arrêté d'aimer les pâtes. Mais jusqu'où ça va aller, hein? Fini les panzani, fini les vacances en Toscane, fini les pastas de la mama, les cacio e pepe. Moi vivante, c'est hors de question. Et je compte bien le rester vivante.
Merci Marie Debreuer. Préparez-vous à jouer avec un Zoom Zoom Test spécial pornographie pour les filles. On parlera aussi de l'art du drag avec Paloma et Lolita Banana. Et Manon nous livrera sa veille sanitaire. Vous aimez les ovnis, vous allez adorer UFO.
Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Que penser des dernières recherches Google de Manon Mariani? Meilleur VPN gratuit, Pedro Pascal Deepfake X, sexe de groupe Pologne. Bon, probablement rien. Quoi qu'il en soit, Manon, vous ne devriez pas avoir, comme d'habitude, de difficultés à remporter ce quiz, même si Quentin pourrait vous donner du fil à retordre, celui qu'on appelle la bûche, surnom hérité de ses prestations dans quelques productions amateurs, Made in Normandie, et où c'était pas le cidre qui coulait à flot. Bref, pour ce quiz, je vais vous pitcher des films coquins. À vous de me trouver leur titre, sachant que ce sont tous des versions X de films célèbres comme Jurassic Porn ou Ass Wide Shut. Vous avez le principe ?
Oui.
J'espère que nos collègues du Masque et la Plume écoutent. Top 7e art. Voici le premier pitch. Tony et son équipe, une bande d'amateurs de belles mécaniques et de gros engins, s'affrontent dans des compétitions. Et c'est ici pas de respect ou de thunes qu'on gagne.
And Curious.
Non, mais la partenaire de son adversaire. Gros dérapage au frein à main garanti. Vous aurez reconnu effectivement la version hard de cette saga baptisée au Québec « Rapide et furieux ».
J'étais pas
Fast and Curious.
C'est plus nul que ça. Ass and Furious, moi j'aurais voulu, mais c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas le titre du vrai film, on cherche des vrais films. Fuck and Furious, bonne réponse. De Manon, une production pourrie bien de chez nous, puisque signée du célèbre Fabien Lefay. Vous n'y trouverez pas Vin Diesel, mais les non moins célèbres Tony Carrera et Cynthia Lavigne, sensation forte garantie. Et non, Quentin, je ne vous demande pas si vous aviez la VHS, je le sais, votre grand-mère me l'a dit. Elle vous a d'ailleurs souvent surpris en train de visionner et revisionner ce chef-d'œuvre alors que vous étiez censé réviser votre brevet.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre.
Étonnant que cette année-là, votre prof principal ait tenté de vous dissuader de passer le brevet. Mais remontons sur le waterbed du Gai Savoir. Ah, ce son, mon Dieu!
Ah bah voilà, Cyril qui nous écoute depuis sa cellule de déglissement a eu un orgasme rien qu'en entendant le jingle canal. Pauvre vieux, en plus il a rien pour se changer. Bref, deuxième pitch. Après la mort de Joe l'Increvable, ex-tenancier de Maison Close, rangé des filles de joie, ses anciens associés se lancent à la recherche de son magot. Marlène, la fille de Joe, s'y intéresse aussi. Un incontournable réunissant les plus célèbres gâchettes du X français, faut reconnaître que c'est du brutal, ça éparpille aux quatre coins du plumard, façon puzzle. Okay. Et les bons pornos, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est ce classique
Michel
des classiques.
Brodard.
Adaptation du plus célèbre film de d'Audiard et pas de Jack. C'est, je vous donne trois possibilités.
Les tontons baiseurs.
Elle cause plus, elle baise. Les tontons tringleurs. Ou un taxi pour ton cul.
B. Ah, c'est bon, ouais. Vous me le laissez quand même celui-là, non?
C'est Quentin. Il avait tellement envie d'avoir la bonne réponse, il l'a eu.
Je crois qu'il le connaît, mais.
Réponse B, oui, une pépite intergénérationnelle et inclusive, puisqu'elle réunit actrices des années 90 et acteurs des années 70, dont le célèbre comédien monégasque Alban Seret, 800 films au compteur, qui lui vaudront le surnom chatoyant de La Bûche du Rocher, La Verge de Monaco. Ou tout simplement queue de béton.
C'est queue de béton, hein. C'est trop bien.
Ah ouais, B, c'est trop drôle. La verge
rien
de Monaco.
Pour avoir cette phrase prononcée par Manon en tête. Queue de béton, c'est trop bien. C'est une bonne réponse, Manon. Et qui osera dire que film coquin et poésie ne s'accordent pas à merveille. Le film suivant est une adaptation très libre d'un des films d'un réalisateur iconique de ces 30 dernières années. Je vous livre le pitch. Katia est ridiculisée et humiliée le jour de son mariage par son ancien amant. Après être sortie d'un long coma, la fiancée n'a qu'une seule idée en tête, se venger. Utilisant ses compétences sexuelle exceptionnelle, elle parcourt le monde pour retrouver et affronter un à un les membres du
Mange
gang de son
M.
ex.
Mange baise M.
Quoi? C'est osé, mais c'est pas ça. Non.
Avec Julia Roberts, oui.
Climax story avec ce dernier, vous aurez reconnu l'audacieux film inspiré du classique de Tarantino.
Kill Bill.
Oui, alors donc.
Fuck Bill.
Fuck Bill.
Non. Trois possibilités. Nick Bill. Kill Beat. Ou Kink, ou Kink Bill.
C'est la B. C'est
B,
la B.
B, c'est la mieux.
Ah, alors, ah, ouais. Je vais dire autre chose.
Ouais, B. Ouais. La B était la mieux, mais malheureusement, les producteurs n'étant pas très doués, c'était la une. Nick Bill. Et je ne peux m'empêcher de penser que Quentin Tarantino, avec sa passion pour le film de genre, doit être flatté qu'un tel hommage lui soit rendu. Terminons en beauté ce quiz spécial pornographie avec une œuvre où le beau sexe, comme dirait Cyril, est à l'honneur. Un film choral de surcroît. C'est l'histoire d'une bande de copains qui se retrouve dans le milieu effervescent et excitant du Sentier à Paris. Cinq jolies et délurées
la
demoiselles.
Si je
se rencontrent, des demoiselles, elles décident de partager leurs aventures
sexuelles. La vérité
sexuelle.
Si je
bande. La vérité si je bande. Oui, un bijou de niche qui, cela dit, n'arrive pas à la cheville d'autres chefs-d'œuvre du cinéma français comme Very Bad Trick ou Bienvenue chez les Ch'tis de Coquille.
Ah, celui-là, c'est mon préf.
Ah, celui-là, effectivement, c'est le mieux.
J'en avais
un savoureux dialogue.
Il y avait Le Seigneur des Anus qui était formidable.
Il faisait partie de ma liste également. Mais hélas, nous n'avons pas le temps car nous sommes le gai savoir, mais pas ton gré non plus. Vive l'amour du cinéma, vive le cinéma et victoire haut la main de Quentin, lui.
Bon, j'ai eu plein de points. Hein.
Merci à tous.
Mais comme on ne le dit pas, en alors, je vais vous dire quelque chose. Cyril Lacarré est en partie aujourd'hui, on ne communique plus les informations. Pierre Courade manque à tous ses devoirs. Si vous voulez devenir rédacteur en chef un jour,
il me parle à moi dans le casque. Là,
il comprend pas les boutons.
Il parle dans l'oreillette, il parle dans le casque de Quentin.
Oui,
en plus, il écrit son petit carnet.
Il était en train de lui dire, mais si je te parle là.
Hugo Bardin et Esteban Inzois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, Hugo, le public vous a découvert sous le nom et les traits de Paloma, grande gagnante du premier concours Drag Race France en 2022. Et vous avez donc participé à la cérémonie d'ouverture des JO l'an dernier. Et Esteban, vous êtes la mythique Lolita Banana. Vous avez aussi participé à la première saison de Drag Race France. Vous avez ému les spectateurs par vos prestations et votre témoignage. On va y venir. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour Queens, l'art du drag dans le monde. Un beau livre qui vient de paraître aux éditions Hors Collection que vous avez coécrit, Paloma, avec la journaliste Élodie Petit. On va le feuilleter ensemble. Mais déjà, ils viennent d'où vos noms de scène? Paloma, par exemple, ça vient d'où?
C'était un accident. J'avais écrit un film qui s'appelait Paloma. Je voulais jouer dedans, donc j'ai joué le rôle. Mais j'avais pas prévu que je deviendrais Paloma après.
Ah oui, c'est l'idée est venue en faisant le film ou en le voyant ou en...
Non, en jouant le rôle, je me suis dit, mais en fait, j'adore le drag, je veux continuer.
Je vais faire ça, quoi.
Mais ça venait de Paloma Picasso.
À la base, Paloma Picasso.
Je suis un gros fan.
Lolita Banana, vous, d'où vient ce...
Et moi, j'ai commencé les drags dans un cabaret et à Biscarros, dans un camping à Biscarros. Et c'était dans un cabaret où il y avait beaucoup de tableaux. Et une de mes collègues danseuses m'a nommé Lolita Banana parce que mon premier numéro drag, j'étais avec des fruits dans la tête, avec Carmen Miranda, très cliché mexicain, oui, j'avoue. Mais du coup, elle a dit « Ah, Lolita Banana !» Et ça, j'ai bien aimé. Oui,
et on le raconte dans le livre. C'est merveilleux.
Voilà. Vous avez parlé de votre séropositivité, à une époque, et c'était important de le faire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, peut-être que la lutte contre le VIH, on n'en parle plus autant qu'à une époque? Moi, à mon époque, dans ma jeunesse, on en parlait énormément. Mm-hmm. C'était présent dans toutes les consciences. Aujourd'hui, peut-être qu'on, malheureusement, on en parle un peu moins.
Je pense que si, on en parle beaucoup, mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ignorent beaucoup de choses importantes, comme quoi le fait que d'être indétectable, ça veut dire intransmissible. Oui. Ça m'arrive souvent d'avoir partenaires que je dois les expliquer, des partenaires de 40 ans que j'ai les donner des cours d'éducation sexuelle. Mmh. Et c'est pas mon travail, quoi. Je suis drag queen, pas sexologue. Mais du coup, oui, à un moment donné, dans l'émission, je voulais parler de ça. Et justement, faire un rapprochement pas et dramatique ou pas triste ou pas... je ne sais pas comment dire, mais...
Misérabiliste.
Ouais. Voilà, c'est ça. Je voulais dire que je vis avec le VIH et qu'on vit très bien et qu'est indétectable, intransmissible, c'est le futur et c'est le présent surtout maintenant de VIH, surtout ici en France. Et que maintenant, il faut juste savoir, quoi. Savoir, avoir les outils des informations et s'en servir.
Et que ce n'est pas que la responsabilité des personnes queer.
Bien sûr que non. Manon ?
Il y a un hommage appuyé aussi à RuPaul dans votre livre, Paloma, forcément. Pourquoi c'est un personnage important pour la communauté LGBTQIA+, notamment pour les dragues RuPaul, et est-ce qu'il est encore important aujourd'hui ?
Bah, il a créé de l'emploi depuis 18 ans pour des centaines de dragues.
Il a créé notre carrière.
Mais oui. C'est quand même quelqu'un qui, dans son émission, fait faire à ses candidates des choses que lui a fait toute sa carrière. Il a présenté des émissions de télé, il a été mannequin, il a chanté. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière assez incroyable. Il était le seul à faire ça à une époque. Ouais.
À son époque.
Donc oui, ça reste un modèle, bien sûr. Alors on peut parler de mainstream, de capitalisme, de tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même quelqu'un qui a changé la face du drag dans le monde.
Ouais. Finalement, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le drag, c'est très politique. Vous attendiez à faire de la politique en montant sur scène.
Je pense que c'est primordial dans les dragues. En fait, maintenant, c'est beaucoup les paillettes, c'est beaucoup la beauté, les shows, les spectacles, la télévision. Mais à la base, les dragues, il sera toujours très lié à la politique. C'est le fait qu'un homme s'habille en femme et qu'il sort dans la rue, c'est déjà un stand-in politique.
Si vous hésitez entre un billet, un pass access pour le Puy du Fou et Queens, l'art du drag dans le monde, je conseille nettement le livre. L'heure de la veille sanitaire. Manon, aujourd'hui, vous nous parlez d'un groupe qui cartonne, mais que personne ne connaît autour de cette table.
Millions de vues pour le clip de ce morceau intitulé Gabriella. Il est aussi numéro 10 du top Spotify monde. Sur TikTok, il est utilisé dans des milliers de vidéos. Ce titre est signé du groupe Katsai, comme la série animée, sauf que c'est avec un K et que ça s'écrit tout attaché. Un groupe, comme vous l'avez dit Mathieu, inconnu au bataillon, notamment par les plus de 30 ans. Même notre caution jeune Marie de Brouwer n'en avait jamais entendu parler.
C'est dire.
Et pourtant, Katsai est devenu un phénomène viral adoré par la Gen Z. Il suffit de voir comment ont réagi les candidats de la Star Academy quand leur a annoncé que le groupe serait sur le plateau samedi prochain.
Le groupe Katsai nous fait l'honneur de venir partager un titre avec l'une d'entre vous, mesdemoiselles.
Oui, Katsai sera sur le plateau avec nous samedi.
Ils ont halluciné. Autant vous dire que les venues de Kenji Girac et de Ed Sheeran n'ont pas eu le même effet. Bref, sur les réseaux, les jeunes spectateurs de la Starac ont halluciné que le groupe vienne sur le plateau français. OMG, je hurle de joie, c'est un rêve, ça va être iconique. Bref, vous l'avez compris, samedi, les Katsai, évidemment, sont à la Starac et c'est l'événement à ne pas louper.
C'est super tout ça, Manon, mais qui sont les Katsai?
On rentre dans la partie boomer de cette chronique, dont malheureusement je fais moi-même partie, car il y a encore quelques semaines, je ne savais pas non plus qui étaient les Katsai. Alors, c'est un girls band, 6 jeunes femmes qui ont entre 17 et 23 ans et qui viennent de pays différents. Manon est italo-suisse, Sophia est philippine, Daniela, Megan et Lara sont américaines, et Yongshe est coréenne, sud-coréenne. Elles ont été formées dans l'émission Dream Academy diffusée sur YouTube, le concept recruter des adolescentes pour former un groupe. Elles s'affrontent dans des défis de chant, de danse, de créativité pendant des semaines et ça cartonne puisque les épisodes ont fait des millions de vues. Un projet que l'on doit surtout à deux grosses maisons de disques, l'américaine Geffen Records qui fait partie du groupe Universal Universal et la sud-coréenne HYBE Corporation qui a créé le plus grand groupe de K-pop mondial, BTS.
Donc autant dire que c'est un groupe très marketé dès le départ.
Totalement, tout a été fait pour qu'elles soient les nouvelles superstars du moment. D'ailleurs, une fois que KATSEYE a été formée, les filles ont été suivies par Netflix qui a documenté toute la préparation de leur EP et dans un documentaire qui s'appelle Popstar Academy, KATSEYE est sorti en août comme leur disque, un très très bon coup de com. C'est comme ça qu'elles sont devenues le groupe à suivre du moment. Leur titre Touch est devenu un véritable carton, plus de 500 millions d'écoutes sur Spotify et une chorégraphie reprise partout sur TikTok. Ça ne parle à personne, du coup, quand même.
Non, vraiment pas.
Ce qui marche avec elles, c'est qu'elles reprennent les codes de la K-pop tout en étant un groupe international. Et puis surtout, elles représentent aussi l'archétype de la Gen Z qui adore le Y2K, la mode des années 2000. Jean taille basse, haut en rési, basket montante, elles s'affichent même avec des téléphones à clapet dans leurs clips. C'est pour ça que Gap, la marque phare des années 2000, les a choisies pour sa dernière campagne de publicité. Les KATSEYE dansent en tenue Gap. La marque était quand même devenue un peu has-been, disons-le, ces dernières années, mais grâce au groupe, leur pub a été vue plus de 400 millions de fois sur les réseaux sociaux. L'année prochaine, elles seront à l'affiche de Coachella. Peut-être qu'on a enfin trouvé la relève des Spice Girls.
Ne dites pas n'importe quoi, Manon non plus. Je veux bien qu'on découvre des nouveaux groupes, mais Touch, c'est le nom de leur chanson.
Oui.
Je demande plutôt la chanson Touch de Daft Punk, c'est quand même autre chose.
Oh, oui.
Excusez-moi.
Ça a 15 ans, on passe au
Moi, j'ai peur de passer pour un boomer. Je dis ce que je pense. Bonjour Marion Mésadorian.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous raconter votre joie quand vous avez découvert l'émission Drag Race.
Mais oui, et je vous partagerai aussi la joie de ceux que j'ai interviewé.
Ah, vous avez interviewé des gens ?
Oui, j'ai un petit peu.
Sans inquiéter. La chronique de Marion Mésadorian, c'est juste après Clips, Chains and Whips sur France Inter.
You run from the spirit of repossession. Too much enamel covers your necklace. I buy bitches, you buy them sections. You buy watches, I buy collections. Misery's fueling your aggression. Jealousy's turned into obsession. Reality TV is mud wrestling. Some sign checks I know better than. Beware of my name that there's delicate. You know I know where you're delicate. Crush you to pieces, I hum a breath of it. I will close your heaven for the hell of it. You think it'd be valor amongst veterans. I'm watching your fame escape relevance. We all in a room, but here's the elephant. You chasing a feature out of your element. And those lab diamonds under inspection. The question marks block your blessings. It's no tombstones in the desert. I know by now you get the message. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. It don't take much to put two and two. Your lucky streak is now losing you. Money's dried up like a cuticle. You're gasping for air now, it's beautiful. John 10-10, that's my usual. Mamas is falling out in funerals. And bomb and blow, they now viewing you. They never find the guns, but the sewers do. Bubbles was sick, he need medicine. Brought him back to life, now he dead again. Richard don't make watches for presidents. Just a million trapped between skeletons. This the darkest that I ever been. The diamonds make you taste peppermint. You ain't thriving the snow like it's the Revenant. And send orders back down to keep shoveling. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. You know I'ma get calling. It looks side to side like what did they say? And they ignore his voice. And then you realize that the devil is talking to you.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Une humoriste qui bosse, c'est si rare que ça mérite d'être souligné. Marion Mézadorian, il paraît que vous avez fait pas mal de recherches sur les dragues avant de venir.
Oui, j'ai lu que l'émission Drag Race était une bible plus fun que l'Ancien Testament. Et ayant fait mon baptême et ma communion, j'aurais tendance à valider cette affirmation assez rapidement, vraiment. Je dirais même qu'après 10 secondes de générique, on se désinscrit des cours de catéchisme. Ça danse, ça chante, c'est festif. Pour les catho-sceptiques, écoutez, franchement, c'est Sister Act mais avec des toches de couleur, vraiment. Le bonheur. Mais enfin, mais si, ici, dans la rue, tout le monde s'habille en gris, en noir. Tu m'étonnes que Drag Race, ça fasse polémique. Rien que moi, dès que je mets un pull rouge, j'entends « Oh, tu t'es pris pour la mère Noël ou quoi ?» Hein ? On est que le 30 octobre, hein ? Alors, je me suis demandé, mais pourquoi certains refusent cette joie ? De quoi les gens ont peur ? Que nos fils aient envie de porter des robes ? J'ai tapé sur Google. Oui, parce que je suis encore la dernière à taper sur Google. Quels sont les pays où les hommes portent des robes ? Mais tous les pays, en fait ! Les Japonais portent des robes, les Écossais, les Égyptiens, les Marocains, j'en passe, et 1 million d'hommes indiens. Donc tout le monde, sauf nous, on est des nazes. On est à la ramasse complet. Et juste en dessous, je lis « Est-il normal que mon garçon veuille porter des robes ?» Bah, s'il est plus cultivé que nous, certainement, oui. C'est pas qu'il est pervers, c'est qu'il est instruit. Vraiment. Allez, on va y arriver, on est en 2025. On est des vioques dans ce pays. On a 115 ans d'âge mental. Et encore, ce serait insulter ma grand-mère. Hein. Quand je lui ai appris que c'était pas que les hommes qui pouvaient faire Drag Race, elle m'a dit « Il est où le formulaire d'inscription ?» Et je dis « Mais mamie, qu'est-ce que tu racontes ? T'as 87 ans ?» Elle m'a répondu « Et alors ? Je suis une femme cisgenre, c'est pas encore médiatisé, il y a un boulevard à prendre. » Je lui ai dit « Mais mamie, par contre, faut parler anglais. Hein. Les queens, elles parlent anglais. » Elle m'a dit « It's not a problem. » Je dis « Pas loin, Lolita, franchement, redescendez, il y a de la concurrence, hein, vraiment. » Et même nos agriculteurs sont à fond. Chez moi, dans le sud à Marseille, ils m'ont dit « Mais on n'en peut plus de l'amour et dans le pré, ça fait 20 ans qu'on bouffe des vaches, mettez-nous de la paillette !» Je suis sûre que si on faisait un sondage, on les retrouverait tous à 23h30 devant la finale Drag Race, les bottes aux pieds. Putain, je suis crevée. Je reprends à 4h du mat demain matin, mais j'ai quand même envie de savoir qui est la reine 2025. Moi, mon père, lui, il est prêt. Hein. C'est un homme, je dirais, semi-déconstruit. C'est-à-dire que l'intention est là, mais on n'a pas encore le vocabulaire. En 2012, je manifestais avec mes potes gays. Mon père m'appelle. « Oh, qu'est-ce que tu fais, Marion ? J'entends la musique et les trompettes derrière. » Je dis « Bah, papa, je manifeste avec Fabien pour qu'il puisse se marier un jour avec l'homme qu'il aime. » Et il m'a répondu « Oh, c'est bien, ma fille. Hein. Je l'ai toujours dit. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Et les pédés aussi. » Je dis « Alors, papa, on n'est pas pédés, en fait. Hein. » Il m'a dit « Tu as raison, on réserve ça pour le vélodrome. » Je dis « Non, alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'homophobie ordinaire, papa. » Il me dit « Bon, alors, on dit quoi ?» Je lui dis « Bah, on dit homo ou on dit rien, en fait. Quand je parle de toi, je dis pas à mon père, ce bon gros hétéro qui travaille sur les marchés. » Il me dit « Oui, tu as raison, c'est un peu long. » C'est surtout qu'on s'en fout. Quand on vient t'acheter les fruits et légumes, on se dit pas « Ah, super, il est hétéro, les courgettes seront meilleures. » Non, elles seront meilleures si elles sont bio et locales, mais c'est un autre sujet. Il m'a répondu « Tu as raison, là aussi c'est un ballon. » Il paraît qu'il faut de l'humour pour se lancer dans le drag, je crois que mon père a tout le potentiel. Hein. Et il a rajouté « Attends, mais je réalise, les politiciens en fait, c'est des vrais drag queens, ils ont un costume, sur les plateaux télé ils sont maquillés comme les camions volés, si si, je suis de la housse, on dirait qu'il a mis la tête dans le plâtre. À l'Assemblée, ils font du playback, et aux élections, ils nous ont bien fait rire, hein. Si si si, ils nous ont bien fait rire, quand le cornu s'est recorné 2 jours après, je peux te dire que j'ai bien rigolé, hein. J'ai rigolé jaune, mais j'ai rigolé. » Alors, ce que je me dis, c'est que pendant que nous on parle et on rit là, des lois se font, se discutent et se signent sur les droits des uns et des autres. Alors je dirais juste une chose, merci Drag Race d'avoir redonné la parole aux queens. Certains ont beaucoup trop longtemps parlé pour elles.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est tout pour ce best-of réalisé par Alicia Vulot. Rendez-vous lundi, préparez-vous à vous refaire une petite beauté. On parlera de la tendance du skincare. À lundi, 16h. Zoom Zoom Zen.